Classique, Père Philippe, 21 février 1997, Saint-Jodard.
Quand tu critiques, le cours le plus difficile pour vous. C'est pour ça que il y a de temps en temps des, non pas des oublis, mais on saute au-dessus. Oui, la course à obstacles, hein, quand on sait que là, il y a une difficulté particulière. c'est la première chose que fait la critique. La critique précise tout de suite les trois opérations de l'esprit. Qu'il y a les opérations propres à l'intelligence, les opérations propres au mode spécial d'intelligence que j'ai. Je suis intelligent en raisonnant, moi. C'est pour ça qu'on aime tellement de raisonner. C'est pour ça qu'on aime tellement de critiquer et de raisonner, d'attaquer les gens dans leur raisonnement. Parce que c'est le mode propre de ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle, et ça, le théologien, qui est Thomas d'Aquin, l'a très bien compris, que si je ne parle pas de l'appréhension et du jugement, je ne pourrai rien dire de l'intelligence angélique et de l'intelligence divine. Dieu ne raisonne pas. Il est intelligent. S'il raisonne, c'est parce que de fait, il y a abstraction. S'il n'y avait pas d'abstraction, je ne raisonnerais pas. Le raisonnement est dans l'intelligence. Il n'est pas dans la réalité. Tandis qu'avec la dialectique, on pense que le raisonnement est dans la réalité. Et donc, on ne voit plus avec suffisamment de netteté le fruit de l'abstraction. C'est-à-dire l'intentionnalité propre à l'intelligence. Ce que je saisis au-dedans de moi n'est pas la réalité. C'est pas le décalque de la réalité. C'est quelque chose de la réalité que je saisis. Quelque chose. Mais pas le décalque. Oui, pour le marxisme, la dialectique est évidemment le grand procédé de la vie, de la pensée. Pour un marxiste, il n'y a plus de critique. Il y en a une, si vous voulez, mais elle est très particulière. L'intelligent est le miroir de la réalité. La réalité se reflète dans l'intelligence. Et donc, l'intelligence est comme le reflet du réel. Vous savez, tous remarquez que quand on arrive à Paris Monial, on passe au-dessus d'un petit cours d'eau. Et quand il fait beau, comme aujourd'hui, je regarde ce cours d'eau et il y a le reflet de la cathédrale dans le cours d'eau. Le reflet de la cathédrale dans le cours d'eau, c'est comme dans un miroir et qui serait placé d'une manière telle perpendiculaire à la réalité qui fait que la réalité se reflète dedans. Chaque fois que vous allez à Paris Monial, pensez à ça et vous voyez la critique du marxisme. C'est bien. Pour le marxisme, la dialectique est le reflet du réel. Je ne peux pas distinguer et je ne distingue pas, en bon marxiste que je suis, je ne distingue pas le reflet du réel. Et le reflet est plus près de moi. Donc, pour avoir la vraie vision de la cathédrale de Paris, je la regarde dans son reflet. C'est là où je la connais le mieux, avec plus de précision, plus près de moi. C'est pour moi qu'elle se reflète. Et ce qui va être intéressant, c'est d'étudier ce reflet, et non pas la cathédrale en elle-même. Le réel est loin de moi, et même mon intelligence reflète le réel. Et c'est-à-dire, pour connaître la réalité, je connais le vécu de la réalité dans mon intelligence. Le vécu de la réalité dans mon intelligence, c'est pour moi la meilleure façon de connaître la réalité. Et la dialectique marxiste se fait à l'intérieur de ce reflet, de ce vécu. Et je crois que ça, c'est très important dès que nous abordons le problème du raisonnement. Pour nous, le raisonnement, dans toute sa pureté, ce n'est pas la dialectique. La dialectique est une sorte de raisonnement. La dialectique marxiste n'est pas la science. C'est une philosophie qui assume la science en la dialectisant. C'est très curieux. La science a existé avant la dialectique. Je veux dire, oui, la science a existé avant la dialectique. Et la dialectique s'est emparée de la science pour la dialectiser. Avant la dialectique, il y avait la logique. Et la critique va regarder, et ça, nous essaierons de montrer, comment le raisonnement est antérieur à la dialectique. Le raisonnement existe dès la logique d'Aristote. C'est très vrai que le raisonnement chez Platon n'est pas du tout le raisonnement aristotélicien. C'est une manière pour vous de bien comprendre la différence entre Platon et Aristote. Le raisonnement dialectique de Platon et le raisonnement démonstratif d'Aristote. Si vous faites ça, et ça vous pouvez le faire très facilement en critique, si vous faites ça, vous comprenez tout de suite la différence entre un raisonnement d'une philosophie réaliste, donc ce que c'est que la science, et le point de vue dialectique, qui, lui, a une conception de l'intelligence toute différente. Il n'y a pas d'abstraction. Le raisonnement dialectique, c'est la réalité. Et ce n'est pas du tout le raisonnement fruit de l'intelligence. Entre le raisonnement fruit de l'intelligence, de la raison, qui présuppose abstraction, et la réalité, il y a justement ce fait que la science n'est pas la réalité, elle est ce que je connais de la réalité. Or, ce que je connais de la réalité n'est pas la réalité. Et vous n'avez qu'à penser tout simplement, quand vous entrez dans une petite église ou une cathédrale, vous savez que pour connaître un peu l'architecture de cette cathédrale, il ne s'agit pas de vous placer dans le fond de l'église, puis de regarder. Instinctivement, vous vous déplacez. Il y a une marche dans la cathédrale. Vous regardez l'ensemble, puis vous regardez les détails. Vous analysez. Là, l'analyse se fait grâce à la marche. Et c'est ce que vous indiquez quand vous prenez une photographie. Photographie du fond de la cathédrale. Photographie à tel endroit. Là où vous vous situez, vous avez une vision différente de la cathédrale. Vous n'avez pas l'intuition, mais vous avez des vues différentes. Comme il y a très peu d'abstraction dans la vision, il y en a une quand même. Parce que même votre vision n'est pas un décalque de la réalité. Vous apercevez quand vous devez corriger vos yeux. Les lunettes, c'est une correction. Ce qui prouve qu'il y a une certaine abstraction. Puisque quand mes yeux sont fatigués, je ne saisis plus la réalité dans sa détermination très forte. D'où vient-vous ? Il y a un brouillard. Le brouillard de la vieillesse. Qui fait qu'on ne voit plus avec autant de netteté. Mais on a des visions synthétiques, merveilleuses. Quand on a le brouillard, puisque le brouillard atténue tout. Il atténue tout de façon telle que un individu dans le brouillard, il est complètement immergé. Et on risque de l'écraser. Quand vous vous élevez dans l'air en avion, vous avez des visions synthétiques sans abstraction. C'est curieux, hein? Donc la vision action sensible implique une certaine abstraction. Autrement, vous ne pourriez pas mettre de lunettes. Les lunettes fausseraient tout. Mais il y a aussi ce qui est dans l'œil n'est pas la réalité. C'est la vision qui est que vous êtes capable de capter. Et vous savez aussi la puissance de voir commence à vivre. Vous avez besoin d'une loupe. Vous avez besoin de lumière. C'est très net. La lumière extérieure joue un rôle beaucoup plus important quand vos yeux sont fatigués. Vous devenez myope. Vous avez besoin d'une lumière extérieure très forte. Tout ça montre qu'il y a une certaine abstraction. C'est sûr, autrement, il n'y aurait pas ce changement dans la vision. Ce changement provient ou de l'abstraction ou de la fatigue. L'organe de la vue peut se fatiguer, il est corruptible. Vous pouvez devenir aveugle. Vous devenez aveugle non pas par votre âme mais par votre corps. C'est votre corps qui fait que vos yeux vieillissent. Plus vite que votre cœur, de sorte que vous pouvez devenir aveugle tout en ayant un cœur qui bat normalement. C'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de stress. On explique toujours du mal de stress. Là. Il y a eu des stress très forts et ça a diminué la puissance de votre organe qui n'a plus la même. Et l'intelligence va abstraire de façon beaucoup plus forte encore. Mais le passage de la connaissance directe de papa à homme, c'est quand même magistral hein, comme passage. Quand le gosse passe de papa à homme, parce qu'il est intelligent. Et la science n'est pas au niveau de papa. Non, non, pas du tout. Papa est irréductible à la science. connaissance et la connaissance que vous avez ou que l'enfant a de son père, il fait passer une idéologie. Et je vois tout en fonction de l'idéologie freudienne. Si l'idéologie freudienne peut avoir un tel pouvoir psychique, c'est qu'il y a une certaine abstraction. Autrement dire, mais Freud, mais regardez, c'est pas ça, maman. Oui, c'est ça. Il y a une abstraction. Il faut regarder la force des propagandes grâce à l'abstraction. Parce qu'au fond, ma connaissance est dépendante de l'abstraction. Si ma connaissance humaine, intellectuelle et même sensible est dépendante de l'abstraction, ça fait comprendre combien je suis dépendant du contexte et combien le contexte peut faire dire des choses invraisemblables. Vous voyez, le contexte de l'eau. Vous mettez un bâton dans l'eau, dans un seau. Qu'est-ce que vous voyez? Comme si le bâton était coupé. Alors vous le savez d'avance, très bien. Vous corrigez. Mais si vous ne le saviez pas, le gosse qui ne sait pas, dit « Oh papa, tu as cassé le bâton !» Vous n'avez jamais entendu ça? Parce que lui, il dit tout de suite ce qu'il voit. Il est persuadé que le bâton est cassé. Il ne sait pas qu'il y a abstraction. Il ne sait pas que le contexte va modifier la vision. Et au fond, ce que dit le gosse, c'est très curieux. Et ce que dit le savant, il oublie l'abstraction. Et voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai constaté. Donc c'est ça. Attention, c'est ce que vous avez constaté. Mais est-ce que vous avez constaté immédiatement la réalité? En ce sens que la vision de la réalité s'est réfléchie en vous. Oui, est-ce qu'il y a eu le saut d'eau? Qui a changé toute la vision? Ah, vous ne touchez pas la réalité. Oui, vous la touchez de temps en temps, mais même en la touchant, vous la modifiez. Alors vous allez au bout jusqu'à dire, alors je ne connais plus rien du tout. Ah, non. Vous pouvez vous corriger et dire que c'est vrai. Vous touchez la réalité à travers son conditionnement, à travers son pose. Mais petit à petit, vous arrivez à découvrir ce qu'est cette réalité. Vous passez donc de la description à la connaissance intellectuelle. Et on est tellement habitué de faire ça qu'on n'y pense plus. La critique veut faire comprendre le comment de mon intelligence, et que ce comment de mon intelligence modifie très profondément le réel que vous touchez, que vous atteignez. Et vous essayez de comprendre autant que vous le pouvez cette transformation que vous faites de la réalité en l'expérimentant. En la regardant. Vous voyez tout ce que ça représente. Et comme la critique me permet de discerner que dans la connaissance intellectuelle, le plus grand changement que je peux opérer, c'est en raisonnant. En raisonnant, je dépasse l'expérience immédiate, qui n'est jamais immédiate, et le plus immédiate possible. Je dépasse l'expérience raisonnement, c'est ce que vous faites. Prenez le raisonnement le plus stupide qui soit. La démonstration. Pierre existe. Pierre est un homme. Et vous concluez, donc, il est capable de rire. Vous n'avez jamais touché la capacité de rire. Et vous l'avez démontré. Et la démonstration me fait quitter ce que je constate immédiatement, ce que je peux décrire, ce que je décris. C'est ça. On saisit tout. On dit la seule chose qui existe, c'est ce que je peux constater. Mais l'universel, c'est le nom. C'est pour ça qu'on dit nominalisme. C'est le nom qui remplace la nature. La nature n'existe pas. Pour le nominalisme. Donc il n'y a pas de nature. La seule chose qui existe, c'est ce que je vois. Vous rencontrez cette mentalité-là très souvent aujourd'hui. La découverte de l'intelligence qui veut pénétrer plus avant dans la réalité pour découvrir sa nature propre, pour découvrir le principe. Procédé de l'intelligence qu'on appelle l'induction. Vous avez subi les cours qui vous conduisaient à la découverte de la substance. Vous n'avez jamais vu la substance. Et à propos de la substance, on a parlé de l'âme. Vous n'avez jamais vu votre âme. Votre âme, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle existe? Ou n'existe que l'individu? Vous voyez, la critique va essayer de voir comment ça se fait que je puis passer de l'expérience multiple et divers à l'affirmation, à la découverte d'un principe. Que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais touché, que vous n'avez jamais expérimenté directement. Et pourtant, commencé à vous poser l'exemple, mais est-ce que l'homme existe? Est-ce que ça existe? Alors qu'est-ce qu'on vous dira quand vous dites ça? Quand le gosse grandissant commence à dire ça à son père, on me dit, surtout ne fais pas de philosophie, tu vas perdre la tête. Parce que tu vas croire que homme, c'est plus réaliste que papa. Vous comprenez, si vous acceptez homme, et vous acceptez toutes les élucubrations idéologiques sur homme, vous acceptez Freud. Freud a le droit de parler. Puisque vous acceptez homme, donc vous acceptez que l'intelligence humaine puisse dominer la réalité. Ce que vous constatez, c'est le corps, mais l'âme. Oh, les idéologies, c'est ça. Vous voyez donc, si vous acceptez que l'intelligence humaine peut, à partir de l'expérience, saisir des principes, une nature, une quiddité. Il n'y a pas de raison de refuser Freud. Donc la porte est ouverte à toute espèce d'idéologie. Et c'est vrai, j'ai le droit d'avoir mon idée sur l'homme, puisque certains l'ont. J'ai le droit d'avoir mes idées sur l'âme, puisque personne ne l'a vu. Et qu'ils en parlent tous. Et j'ai le droit au scepticisme. Puisque je vois que dès qu'on commence les idéologies, c'est plus le réel. Surtout ne fais pas de philosophie, tu quittes le réel. Et au bout d'un certain temps, on aura l'asile psychiatrique parce qu'il a décidé qu'ils ne sont pas le réel. S'il était resté toujours près de sa casserole en voyant que l'eau se met à bouillir, mais faut pas aller plus loin. Faut surtout ne plus la toucher quand elle commence à bouillir parce que ça fait mal. Et donc vous voyez bien, il faut pas être un touche-à-tout. Les philosophes touchent à tout. Ils remplacent l'expérience du réel par leur idéologie. Alors vous acceptez toutes les idéologies, ou bien vous dites qu'il y en a de bonnes et de mauvaises. Vous voyez, on tombe dans un scepticisme quand c'est plus le réel qui me conduit. Donc, c'est capital de voir si mon intelligence est faite pour la vérité. Ou si mon intelligence ne peut pas atteindre la vérité. C'est beaucoup plus simple. J'aurais plus qu'à faire la cuisine. Au moins, en faisant la cuisine, vous faites quelque chose de réel. Et vous voyez si c'est bon ou mauvais. Et vous pouvez dire après au cuisinier, mais tu fais une drôle de cuisine. C'est imbuvable. Alors le cuisinier répondra, pourtant, je ne me sers que d'aliments. Parfait. Oui, mais la manière dont tu t'en sers, ça les rend imbuvables. Il y a un art entre deux. Un art qui peut tout transformer et rendre des choses imbuvables. Au contraire, un art qui ajoute ou délice des réalités prises directement de la réalité. Vous voyez, où se situe la critique? C'est parce que entre les idées que j'ai et la réalité, il y a l'abstraction. J'ai une source de connaissance, les sens, et en réalité j'en ai cinq. C'est déjà pas commode. J'ai cinq sources. Alors, y a-t-il l'unité dans les sens? à l'unité. Ça se fait par l'abstraction. Et une fois que mon intelligence saisit, je saisis l'acuité des réalités. Je saisis la nature. Ce passage du singulier à la nature, est-ce que c'est l'abstraction? Ou est-ce que c'est l'induction? Il y a deux passages. Je suis bien obligé de reconnaître l'expérience de tous les jours de la parole. S'il n'y avait pas d'abstraction, il n'y aurait pas de parole. La parole exprime le fruit d'abstraction. Homme. Homme, c'est pas papa. C'est différent. Et pourtant, c'est la même chose. Qu'est-ce qui m'a dit que c'était la même chose? Papa, homme. Ah, des gens qui ont fait beaucoup d'études avant moi. Et je crois. Ou est-ce que c'est quelque chose de naturel? Que je peux, moi, sans être un grand savant, répéter homme. J'ai pas besoin de payer. Parce que c'est une chose naturelle. Les sophistes se faisaient payer pour rouler tout le monde par l'abstraction. Ils avaient compris qu'il y avait quelque chose là à vendre. La logique. Et ils étaient des sophistes qui se servaient de la dialectique pour rouler tout ce qu'il désirait dans la farine, et que ça paraissait toujours comme de la farine. C'est ce qu'ils faisaient, les sophistes. De ce point de vue-là, c'est très intéressant de voir que la philosophie s'est laissée rouler par les sophistes, donc par le langage qui remplaçait la réalité. Si ma pensée était au niveau du langage, les sophistes sont vrais. Sont très intéressants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reprend au point de vue historique l'étude des sophistes en disant c'est pas si bête. Alors que du temps du réalisme au Moyen-Âge, les sophistes, c'était des sophistes. Et par le fait même, les sophistes étaient source d'erreur. Aujourd'hui, mais pas du tout. Les sophistes éduquent merveilleusement. On les a mal compris. Ils ont été très intelligents. Hein? On retrouve une ère sophistique. On peut tout dire. Si on le défend avec des arguments logiques. On m'a dit l'autre jour, quelqu'un qui n'était pas bête. Ah oui, la philosophie, c'est l'art de parler sans faire de contradiction. On peut tout dire. C'est pas la vérité, on cherche. Non, on peut tout dire. Il faut éviter les contradictions. Et donc, ce sont les sophistes. La philosophie, pour beaucoup aujourd'hui, c'est les sophistes. C'est l'art de parler. C'est l'art de convaincre. C'est l'art de... C'est plus de tout chercher la vérité. C'est l'art de pouvoir parler sans contradiction. Et là, on arrive aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte plus le jugement d'existence, le réalisme. Que la réalité est autre que ma pensée. Que ma pensée dépend de la réalité. Mais qu'elle regarde toute chose sous un mode différent du réel. L'universel me permet de faire ça. premier raisonnement, le passage de l'individu, du singulier, au principe, ce qu'on appelle l'induction. Ce que nous avons essayé de faire ensemble pour découvrir la substance. Vous voyez, parce qu'on ne critique pas la sensation. On ne critique pas l'expérience. C'est naturel. Mais dans la mesure où il y a une certaine abstraction dans la sensation, on pourrait critiquer la sensation. Là, ça, on verra au terme. Est-ce que la sensation est critiquable? La sensation est critiquable à cause des organes. Alors, à ce moment-là, je sens autre chose que mon voisin. Je vois autre chose que mon voisin. Et je sais, grâce à mes lunettes, que autre chose est la connaissance directe avec ce petit instrument, sans ce petit instrument. Mais si vous n'aviez jamais porté de lunettes, vous diriez, oui, ce que je vois, c'est ce que je vois. C'est pas critiquable. Si vous commencez à critiquer ma vision, ma connaissance, ça tiendrait rapide au nom de quoi? Au nom de votre vision. Alors, on essaiera de voir que représente cette opération fondamentale au point de vue du raisonnement, ce qu'on appelle l'induction.